Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Benoît FX. Salut Benoît FX.
Salut Elodie.
Ça va toujours bien dans cette top quatrième journée de fige?
Ouais, c'est presque la fin du marathon, mais on tient le coup pour l'instant.
Et nous accueillons Cédric Anonier, auteur de jeu. Salut Cédric.
Salut Elodie. Coucou.
Comment ça va?
Ça roule, ça va bien.
Alors, je vais être très transparente avec vous. Avec Cédric, nous sommes amis dans la vraie vie. On fait partie de la même association de jeux en Ardèche.
Quoi ?
Oui. Et si je lui ai proposé de venir à notre micro, c'est pas juste parce que c'est un copain. C'est aussi parce que je trouve son parcours extrêmement intéressant,
atypique
et inspirant. Et je me dis que peut-être certains et certaines d'entre vous... qui auraient peut-être des hésitations à se lancer, seront inspirés par ce parcours.
Voilà,
voilà. Pourquoi je ne mets pas du tout la pression là maintenant.
Quel teasing.
Voilà.
Avant ça, on va commencer par notre petit fil rouge. C'est des questions qu'on pose à tous nos invités. Du coup, Cédric, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serait-elle?
Je dirais la programmation.
Ok.
Si tu étais un thème de jeu?
Du post-apo. Ouais,
pour
c'est
les
pas
intimes.
Facile à dire ça. Non, c'est post-apo, pas c'est bien.
Si tu étais un élément de jeu?
Un meeple chat.
Rare.
Ah bon?
Bah, je sais pas. Il y en a beaucoup des meeple chats?
Bah, tu joues un jeu avec des chats et puis tu as un meeple chat.
Ah, il y en a quelques-uns quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et si tu étais un jeu?
Si j'étais un jeu, le poker.
Ok. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît?
Bah, moi, je me présente souvent comme un polyartiste. Donc, parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Beaucoup de passion. Donc en ce moment, je suis beaucoup sur la création de jeux. Ça fait un petit moment que je me concentre là-dessus. Ma compagne est potière, donc je suis illustrateur sur céramique en le reste du temps. Et je suis intervenant en histoire vivante dans un cadre scolaire ou en festival médiéval. Je suis verbicruciste, donc je crée des mots croisés. Et on peut dire que je suis exobiologiste amateur, c'est-à-dire que j'aime à imaginer des formes de vie extraterrestres probables, possibles, incongrues, étranges, et peut-être encore d'autres choses auxquelles je n'ai même pas accès moi-même.
Vous avez dit que c'était un personnage atypique. Hein.
Tu as dit que tu t'intéresses particulièrement à la création de jeux en ce moment. C'est quoi ton parcours personnel en tant que joueur? Qu'est-ce qui t'a amené au jeu? Quel est ton parcours dans cet univers?
Je m'attendais à cette question. Alors hier soir, je me suis un petit peu fait un parcours de vie méditatif pendant mon insomnie, enfin bon, en gros. Hein. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que gamin, ado, pré-ado, je me suis revu en train de faire des jeux tout seul pour moi sur mon Amstrad CPC 464. Ça, c'est une antiquité, c'était un truc à cassette. Je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui savent même ce que c'est une cassette, mais on enregistrait nos données de 2 ou 3 kilooctets sur des cassettes. Et je me suis revu en train effectivement de créer des quiz. J'avais même programmé un petit truc en basique ultra simple, une ligne qui bougeait. Et puis quand tu appuyais sur la touche haut, ça faisait sauter un petit machin. Et puis je m'étais mis... Et en fait, je jouais tout seul à créer des jeux en me disant, oh, tiens... Bon, moi, je me fais un quiz pour moi, pour mon père, et puis c'est tout, quoi. Et ça me plaisait bien de passer du temps à ça. Et puis après, je mettais une cassette pour jouer à un jeu vidéo. Après, j'ai joué gamin aussi pas mal au livre dont vous êtes le héros. Et puis, j'ai laissé tomber le jeu, en fait. Je n'avais pas beaucoup de jeux à la maison. Et j'ai redécouvert le jeu très tard avec des collègues, des amis médiévistes. Je suis rentré là-dedans. Donc là, ça jouait beaucoup. Et j'ai découvert le jeu de société. Redécouvert le jeu de société, je devais avoir une vingtaine d'années, en fait. Donc, j'ai découvert des Bonanza, des choses comme ça. Je trouvais ça sympa. Et à cette époque-là, comme je faisais du médiéval, j'ai commencé à graver des jeux en médiéval, des Teufels, des jeux médiévaux, en fait, des moulins, des choses comme ça. un jeu de la Merelle, on appelle ça aussi, en me spécialisant dans le jeu médiéval, en quelque sorte, je les présentais, et puis de les graver, etc. Ça m'a dit, bah oui, tiens, c'est sympa, comme je suis un petit peu graphiste, illustrateur, j'ai un petit coup de crayon, bah, je m'amusais comme ça à faire des plateaux de jeu, des pièces gravées, et puis mes potes m'ont dit, tiens, tu pourrais en vendre, des trucs comme ça, ouais, bon. Et puis à ce moment-là, j'ai fait un truc un peu fou, j'ai repris un jeu traditionnel qui s'appelle le Toc, que j'ai entièrement redessiné le jeu de cartes traditionnel avec des entrelacs, des licornes, j'ai transformé ça dans un univers elfique. J'ai passé un petit peu de temps à faire ça. Avec ma compagne, on a fait des petites pièces avec des vrais cristaux et de la pâte Fimo. Oups, j'ai dit une marque. Ça, vous pourrez enlever.
Pour en citer deux autres. Mais il n'y a pas d'équivalent à la pâte Fimo.
Et donc, j'ai un petit peu modifié le moteur du Toc. Parce que comme j'ai redessiné l'intégralité du jeu de cartes traditionnel, j'ai rajouté des jokers pour le rendre un peu plus dynamique. Et puis ça, après c'est parti, j'ai eu d'autres idées, et on va dire, je me suis jamais vraiment arrêté d'avoir des idées. J'ai eu une période où j'ai fait pas mal en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai pas mal bougé sur les protozones pour présenter mes jeux. Ça, voilà, il y en a que j'ai poussé plus, et ça, il y a une petite dizaine d'années, je dirais. Et puis, il y a 2 ans, j'ai fait un stage avec Tanguy Gréban de Board Game Campus, qui a maintenant une école du jeu à Bruxelles. Donc j'ai fait ça au chalet des
jeux.
D'un monde de jeux. J'ai fait cette semaine de stage. Tanguy m'a dit bah ouais, continue. Il m'a reboosté dans cette voie de créativité. Parce que j'étais un peu en doute hein, quand on crée comme ça, on a des super retours. J'avais commencé un peu discrètement à contacter des éditeurs comme ci comme ça, et puis après ce stage-là, il nous a dit que mais oui c'est possible, on peut imaginer d'éditer un jour. Quelques temps juste avant le stage, j'avais contacté donc Widika qui édite mon premier jeu sur Cannes l'année dernière. Nous, on cherche du chiffre et couleur. Elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était. J'ai fait, ah bah oui, j'ai un vieux truc dans les cartons que j'ai fait il y a 10 ans qui rame un peu. Mais je vais voir ce que ça donne si je nettoie. Donc, j'ai viré toutes les cartes à pouvoir. Je l'ai ultra simplifié pour faire un jeu extrêmement familial, extrêmement simple. C'est ce qu'ils veulent. Et ça a matché. Elle a aimé le jeu. Je l'ai présenté sur Partenay.
On est en 2025.
Voilà, l'année dernière, Partenay 2025. Je suis allé à Vichy Pro. Elle m'a dit que mon jeu était choisi. J'ai signé dans la foulée. Et donc, il y a 1 an à Cannes, on a fait connaissance et mon jeu est là, édité. Et puis, je sors d'une séance de dédicace, en fait, pour arriver jusque chez vous.
Inspirant, voilà. Je vous avais dit. Hein. Mais je vous l'avais dit, parce que c'est quand même fou ce parcours-là.
Mais oui, j'ai l'impression dans ton histoire que effectivement la concrétisation, l'édition d'un jeu, c'est très récent, mais que t'as pas arrêté de créer toute ta vie en fait. Que il y a une intrinsion entre l'artistique, l'artisanal, le jeu, l'art, la poterie. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air très très lié et très.
Ouais, tout à fait. Tout est lié. T'as tout dit en fait. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Oui, c'est pas mon premier jeu. C'est mon premier jeu édité. Mais comme beaucoup d'autres collègues créateurs, on a des cartons entiers, des fichiers de jeux. Souvent, je dis combien vous avez de jeux. Moi, j'en sais rien, une cinquantaine sur les 50 qui sont archivés. J'en ai réalisé une trentaine. Sur cette trentaine que j'ai pu tester, voir un petit peu, j'en ai peut-être une quinzaine. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, avec moi dans ma besace, j'ai on va dire une dizaine de jeux. Et j'ai 3 jeux qui naissent et j'ai un jeu qui a 3 semaines je suis venu sur Cannes avec en me disant bah c'est bête, je vais rencontrer Widika et j'ai rien à leur proposer en chiffre et couleur. Et du chiffre et couleur, je me dis quand même, je peux pendant mes insomnies, je peux trouver un truc.
Presque un travail de commande, quoi.
Voilà. Bon. Et du coup, j'ai trouvé un truc vraiment super sympa qui fonctionne. Et là, je sors d'un rendez-vous impromptu avec Blue Range. Et Blue Range a gardé mon proto et l'essaye ce soir.
Et du coup, quel est ton processus de création? Comment ça marche? Qu'est-ce qui clique dans la tête de Cédric?
Mais je vais répondre classiquement, comme certainement beaucoup d'auteurs l'ont fait déjà, de plein de façons différentes, ça arrive. Il y a pas de règles. Moi, j'ai pas de règles en tout cas. Il y a un truc souvent que j'aime bien dire, c'est que pour faire un bon jeu, il faut 3 choses importantes. La première, c'est la pratique, c'est-à-dire créer des jeux. Plus on va s'entraîner à créer des jeux, mieux ça va être. La deuxième, c'est la pratique. Donc, plus on va créer des jeux, plus on va être bon à créer des jeux. Et la troisième, c'est la pratique.
C'est en forgeant qu'on devient tout ça.
Ouais. Et du coup, c'est le dernier jeu là que j'ai eu, c'est juste une espèce de vision dans la nuit d'un système d'utilisation de cartes que j'ai encore pas vu pour l'instant, moi, personnellement, et les quelques gens à qui je l'ai montré l'ont pas vu non plus. Du coup, ça a fait, tiens, mais dans mon insomnie, j'ai bossé, quoi. J'ai fait, tiens, qu'est-ce qui se passe si je reprends ce système-là? Tac, tac, tac. Donc, ça s'est monté comme ça. Je me suis levé, j'ai tapé mes règles sur l'ordinateur, ce que j'avais imaginé, là, dans la nuit, dans mon lit, quoi. Tac, tac, tac. Le lendemain matin, j'ai construit mon proto, papier, ciseaux, impression, hein, testé vite fait. Ah, tiens, c'est marrant, ça a l'air de fonctionner. Quelques tests de 3 jours, ça allait très très vite en fait. Et comme j'ai quelques décennies de pratique, j'ai une sorte d'intuition. Hier soir sur la protozone, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment t'as fait là pour calibrer tes cartes, etc. Et j'ai répondu, ça a fait rigoler. J'ai une partie de mon cerveau qui doit être un algorithme inconscient à laquelle moi j'ai pas accès, donc faudra lui demander. J'ai créé comme ça une espèce de machine instinctive, parce que ma note, ça c'est assez drôle comme parcours aussi, ma note au bac, donc j'ai passé le bac à l'oral il y a de ça quelques décennies aussi, et ma note, je vais pas la dire, mais elle est comprise entre 1 et 3 sur 20.
Donc, en maths, tu veux dire?
En maths, ouais, en oral de maths. Donc entre 1 et 3, donc j'ai pas eu un 0 qui m'aurait disqualifié du bac automatiquement, mais j'ai pas fait un bon score, on va dire, en termes de gameplay. C'est pas terrible ma note, et ça me fait rire qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie, les maths, mais je les utilise concrètement. Et Michael Launay de Micmat, j'aimerais lui ressembler dans sa transmission. Il a écrit des bouquins, et pour moi, c'est des petites références et des petites bibles, ça, parce que quand on est auteur de jeu, je pense qu'il faut toujours aller grignoter à droite, à gauche. Moi, je bouquine, je m'intéresse, je reste ouvert. J'ai des tentacules, quoi, qui cherchent à grignoter sur de l'éthologie, sur de la science, sur du quantique. Et souvent, je vois des trucs, tiens, ben ça c'est marrant, ce machin-là, est-ce que ça ferait un jeu, quoi. J'ai souvent le cling-cling. Mais je pense qu'on est beaucoup d'auteurs à fonctionner comme ça, quoi.
Tu as un proto, notamment, autour des oiseaux. Moi, je trouvais que l'idée de, si tu veux bien revenir sur sur ce proto-là, et sur l'histoire de ce jeu-là.
Ouais, c'est un jeu qui plaît bien à Tanguy Gréban, qui me plaît bien aussi. Et qui est une espèce de concordance entre des oiseaux qui s'appellent des oiseaux jardiniers, donc plus précisément des jardiniers satinés, qui sont des oiseaux endémiques du sud-est de l'Australie, qui ont la particularité de décorer leur lek, donc leur aire de séduction, avec des objets bleus. Donc si vous tapez jardinier satiné sur Internet, vous allez voir des photos de jardins, enfin de lek, c'est-à-dire d'aire de séduction, décoré avec des pinces à linge, des bouchons de bouteilles, des pailles, etc. Et puis j'avais déjà rencontré ces oiseaux, rencontré culturellement ces oiseaux il y a quelques années. Et puis, je sais pas, il y a l'année dernière, un an ou deux, je sais plus, je retombe sur un petit article de La Tête au Carré, je crois, qui parle de ces oiseaux. Et je lis l'article et je fais, tiens, c'est marrant, ces oiseaux qui se disputent continuellement des objets bleus sans jamais s'agresser et qui ont un but, c'est de transmettre leurs gènes. Je fais, mais ça, en fait, c'est un jeu, quoi. Donc, juste en lisant ce petit truc-là, dans ma tête, j'ai fait, on est des oiseaux. Tiens, je vais m'amuser à dire qu'on va programmer nos 3 actions. Avec un peu de chance, ça passe. Donc, j'ai construit le jeu sur un moteur assez simple de programmation. Et puis, ça fait quelques mois que je le peaufine, je l'équilibre, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il est fini. Donc, on dit qu'il est fini, c'est-à-dire que maintenant, j'y touche plus, etc. Et puis, finalement, je me dis, j'ai des cartes objectifs avec des points à calibrer parce que tel type d'objet vont me rapporter tel type de points. Et ça, mon algorithme interne est sensitif, mais pas suffisamment pour faire un truc absolument nickel, chrome, au demi-point près. Donc, on pourrait dire, peut-être je vais passer ma vie à peaufiner ce jeu. Et en même temps, quand je le propose, quand je le fais jouer, ça s'amuse, c'est chouette. Et c'est un truc un peu dingue parce que on va appeler ça une niche. C'est des oiseaux, c'est une espèce d'oiseau. Je sais pas un jeu sur des oiseaux migrateurs ou sur... c'est une espèce d'oiseau qui a ce truc très spécifique et je me suis amusé à faire un jeu, j'aime bien dire, quasi simulationniste. Ça fait un peu mot, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mais en fait, j'essaye que les actions soient calquées au plus proche des comportements de ces oiseaux parce que c'est très, j'ai une admiration profonde finalement pour ce qu'ils font. C'est très anthropocentré, bien sûr. Je regarde ça avec ma vision d'être humain et je fais waouh, c'est super beau ce qu'ils font de mettre tous ces objets bleus, etc. Et puis quand on rentre là-dedans, quand on rentre dans l'éthologie, quand on lit Un monde immense qui parle de l'umwelt, c'est-à-dire la façon dont les animaux perçoivent le monde, bah on explose encore plus sa conscience. On fait ah ouais, ok, en fait il y a des animaux, ils lèchent le sol pour être conscients de ce qu'il y a autour d'eux. Leur rapport au monde, c'est le goût. On fait ah ouais, en fait il y a tout ça derrière, ça c'est l'éthologie, c'est fascinant.
C'est le prochain jeu, ça?
Alors ça peut être drôle, j'ai un pote qui m'a dit ouais, lis ce bouquin, fais un jeu avec ça, parce que ça explose vraiment ça s'appelle Un monde immense, c'est mon deuxième livre de chevet en gros, c'est ce que je trouve ultra inspirant, c'est vraiment il y a ça qui existe quand on partage cette planète avec des êtres qui sont électrosensibles, voilà, qui ont, nous on est sur la vision, hein, beaucoup, et puis il y a des êtres, ils n'ont pas la vision, par contre ils ont une perception parfaite du monde qui les entoure par l'électroperception. Ça c'est des sources d'inspiration, et puis un jour peut-être je vais être encore plus fasciné que je le suis à l'heure actuelle par l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est quelque chose d'absolument incroyable, on appelle ça de la magie. Si je dois citer Arthur C. Clarke, quand la science ne comprend pas quelque chose, elle l'appelle la magie. Et l'intrication quantique, aujourd'hui, on la prouve, on sait qu'elle est réelle, on ne sait pas l'expliquer. Une particule qui modifie une particule, quelle que soit la distance, il n'y a aucune émission, il n'y a pas d'émission d'énergie, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, vous modifiez une molécule à un endroit, 200 km plus loin, la particule va répondre. Et on ne sait pas pourquoi. Mais ça, je trouve ça super intéressant. Et tous ces petits trucs comme ça, ça occupe mes nuits d'insomnie. Et puis parfois, ça donne des jeux. Des fois, non. Ça m'occupe mes nuits. Ça dépend. Voilà un peu pour essayer de répondre à... Je ne sais pas si ça répond à ta question, parce que des fois, moi, je parle de science.
À peu près.
Ouais. Moi, j'ai une question rapidement. Est-ce que ça change quelque chose, du coup, d'être édité, à la fois dans ton approche à la création? Et à la fois aussi, qu'est-ce que tu viens faire à Cannes? Est-ce que tu viens, tu dis que tu revenais d'une séance de dédicace. Qu'est-ce que ça change en fait dans ta perception de ce mode de création?
Pas beaucoup de choses, curieusement. Comme une espèce de logique. C'est très excitant, c'est très chouette. Et je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Pour moi, ce jeu Ligne 5, c'est fait. Il est sorti, je vois des gens qui jouent, je regarde un petit peu du coin de l'œil comment ça réagit, c'est chouette. Et en fait, je me dis, mais là, dans mon sac, là, j'ai 10 autres trucs qui méritent leur place, enfin, qui méritent leur place. En tout cas, pour moi, j'ai des petits trucs vraiment sympas. Donc, je suis plus dans, je vais profiter de ce pas, ce premier pas, on va dire, professionnel dans le monde du jeu, on va dire, dans le milieu. En me disant, j'ai d'autres trucs sous le coude, quoi. J'ai plein d'autres trucs très culturels, très étranges, j'ai des espèces d'ovnis, j'ai des trucs en hommage absolu à la grotte Chauvet. Donc, Elodie et moi, on est en Ardèche, on n'est pas très loin de la grotte Chauvet. J'ai un jeu sur ce thème-là qui fonctionne très bien et qui est vraiment un jeu en hommage profond aux Aurignaciens d'il y a 35 000 ans, où on joue on joue avec les animaux emblématiques de la grotte que je connais bien parce que je l'admire. Et puis, géographiquement, c'est pas loin. Donc, j'ai eu la chance d'aller visiter la réplique plusieurs fois. Donc, je suis un grand fan de ça. Et pareil, on parlait de qu'est-ce qui va m'influencer. Bah oui, c'est tellement beau que je peux pas m'empêcher de faire un jeu. Il y a les animaux qui vont faire gagner des points en fonction d'où ils sont posés, etc. Jeu de pose que j'aime beaucoup et qui c'est surtout, j'aime bien mon moteur, mais ce qui m'a nourri sur celui-là, c'est la fascination pour j'aime bien dire ce premier chef-d'œuvre de l'humanité.
Oui, en fait, tu prends vraiment tout ce qui peut t'inspirer, tu te nourris de tout, quoi.
Je peux faire de la science-fiction, c'est un jeu de massacre médiéval. Là, je suis sur un projet de jeu, et j'aime bien me lancer des défis. Je suis sur un projet de jeu sur le folk, la danse folk, parce que j'ai découvert ça il y a quelques années. Et pour la première fois de ma vie, je vais essayer de faire un jeu où on va pas compter des points et on va être sur un truc de sensitivité pour être bien ensemble quand on fait une valse. Donc ça va s'adresser à des danseurs. Donc ça va être un jeu de niche, encore un. Mais je me dis, bon, je me fais plaisir. Comme de toute façon, je vais aller faire des balles folk. Bah tiens, regardez, j'ai fait un jeu sur le folk.
Et j'ai hâte qu'on le teste à la sauce, celui-là.
Ouais, bah bon, là il ramène. Enfin, j'en ai 5 autres à finaliser et il est là. J'ai fait un. Ouais.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu nous as dit que tu avais un rendez-vous bientôt, donc on va devoir te laisser.
Ouais, bah merci beaucoup pour cette interview, c'est très chouette. Et j'ai fait mon petit itinéraire ce matin, donc c'est drôle ce matin, j'étais dans le palais là, les gens qui connaissent pas, c'est un labyrinthe ici, on dit tous, c'est un vrai labyrinthe.
C'est un jeu dans le jeu.
Donc ce matin, j'ai fait mon itinéraire sur mon plan avec mes petites flèches, je me suis chronométré et je sais qu'il y a des écueils à éviter. Je vous disais tout à l'heure, il y a l'escalator maudit qui vous freine. Pour venir ici, on est obligé. Le plus simple pour moi, c'est de prendre les escalators. Sauf qu'il n'y a que les escalators, il n'y a pas les marches. Donc là, je sais que j'ai un différentiel de 10 à 12 secondes. il va falloir que je gère ça quoi, pour ne pas être à la bourre sur mon prochain rendez-vous. Donc j'aime bien le voir comme un jeu parce que sinon, je stresse trop.
Ok. Je vais très vite faire l'outro. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.